Muteki et Yo Koso. Bienvenue à tous pour ce nouveau Muteki. Et comme d'habitude, eh ben, vous connaissez le principe. Une heure de son japonais, n'importe comment. Enfin, n'importe comment, pas tout à fait. Ça va être une prog assez, finalement, assez habituelle, où on va se retrouver avec un peu n'importe quoi, mais justement pas n'importe comment. Une bonne partie des titres que je vais vous proposer aujourd'hui sont liés à une actualité, plus ou moins. Une prog assez folle, puisqu'on va avoir aussi des artistes qu'on n'a jamais passé dans l'émission à ce jour. Elle, on l'a passé déjà par le passé, voilà, histoire de boucler la phrase à la con. L'artiste, elle, est pas du tout une artiste à la con. C'est la grande Shina Lingo, avec une chanson dont vous avez reconnu tout de suite les influences footballistiques. C'était la chanson, dont je parlais la semaine dernière en réalité, la chanson qu'elle avait interprétée, enregistrée pour la gloire de l'équipe des Samurai Blue, l'équipe de football japonaise. Et à ce moment-là, c'était pour la Coupe du Monde au Brésil. Et aujourd'hui encore, c'est le générique du foot sur la NHK, la radio-télévision publique japonaise. Et évidemment, qui sert évidemment pour les retransmissions en ce moment de la Coupe d'Asie des Nations, la Coupe continentale, le grand rendez-vous continental pour lequel le Japon est champion en titre, donc remet son titre en jeu 4 ans après. C'est comme l'Euro chez nous, hein, c'est tous les 4 ans. Et compte déjà 4 couronnes continentales, ce qui est quand même pas rien du tout. Premier tour, il y a eu Irak, Jordanie et Palestine. Ça, c'est le programme du premier tour. Et le Japon s'en est tiré. Vous l'avez peut-être suivi sur le Facebook et le Twitter de Muteki. Le Japon s'en est sorti absolument comme des chefs, comme les champions qu'ils sont, avec un 4-0 contre la surprenante Palestine et une victoire 1-0 sur penalty de Honda face à l'Irak, champion d'Asie en 2007. Champion d'Asie une seule fois. Dernier match pour du beurre, ce sera le 20 janvier contre la Jordanie. Et après, on passera aux choses sérieuses, ce sera les quarts de finale. Oui, c'est à peu près le même dispositif que pour la Coupe du Monde ou pour l'Euro chez nous. C'est quand même très très simple à comprendre. Donc le Japon, vous l'aurez compris, en deux mots, très très bien parti dans cette compétition qu'on suivra évidemment en temps et en heure, encore une fois, à chaque match sur le Facebook et le Twitter de Muteki, facebook.com/MutekiKanu, twitter.com/MutekiKanu. Ce que vous entendez là en fond sonore, c'est du Yellow Magic Orchestra. Il y en aura durant cette émission avec un focus. Oui, je vais encore continuer sur mon focus sur Ryuichi Sakamoto en fin d'année 2014. Donc, j'aime bien dire c'est l'année dernière. En réalité, c'était il y a 3 semaines. Il y avait une première partie d'un double focus Ryuichi Sakamoto avec Robin Scott. Ils avaient fait un album ensemble entre Japon et Grande-Bretagne. Et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas continuer, pourquoi pas vous montrer d'autres aspects assez vite. Ça prendra cette semaine et la semaine prochaine, d'autres aspects donc de la carrière du maestro. Et je n'ai pas peur de l'appeler maestro, il l'est véritablement. Écoutez notamment la magnifique musique du dernier empereur, qui sert aujourd'hui encore de générique de remise des palmes au festival de Cannes quelques 25-30 ans plus tard, 26-27 ans, quelque chose comme ça. On va, alors pas tout de suite commencer avec du Sakamoto, je le coupe, mais j'avais dit que quasiment toutes les chansons avaient se raccrocher à une actualité. Eh bien, l'actualité Keisho Ono, c'est qu'il a sa page YouTube sur laquelle on peut découvrir les nouveaux morceaux de son nouveau groupe qui s'appelle Urushi. On a déjà passé 2 de ses morceaux, on va en passer un troisième et dernier qui s'appelle Sakura Fubuki. On a déjà passé c'est N et Kiyomai, que vous pouvez là aussi complètement consulter, regarder. Il y a le clip qui va avec, enfin un clip en infographie, sur la page donc Shami Spirits, page YouTube Shami Spirits, pour retrouver le travail actuel de Keisho Ono. La chanson donc c'est Sakura Fubuki. 0418 39 18 15, j'oublie toujours de le préciser si vous voulez m'appeler durant cette heure d'émission. Muteki, c'est jusqu'à 10h et c'est parti.
この番組はラジオカニュー FM102.2 9時から10時までお送りします。聞いてね。
Michelle Michina, juste à l'instant. Pas tout à fait toute seule. Michina et Tomo, pour être plus précis, avec Tomo Maeda. Ils avaient fait un duo, oui, le verbe faire sert à peu près à tout. Ils avaient donc monté un duo musical, voilà, il y a quelques années de ça. Et la belle se lance désormais en solo, un son qui plairait d'ailleurs à notre cher ami Alpha, on le salue au passage. Oh yeah. Ça c'est pour la voix d'Alpha, mais j'arrive pas à l'imiter malheureusement. Michelle Michina, donc juste à l'instant, dont on avait présenté déjà un titre la semaine dernière, petit teaser qu'elle met toujours d'ailleurs en ligne actuellement sur YouTube. Michelle Michina, chanteuse soul, jazz, franco-japonaise, on le rappelle, qui va sortir son premier album à elle toute seule, c'est-à-dire sans Tomo pour le coup. La semaine dernière, il n'y avait pas encore de date, et ben désormais, ça y est, on la connaît, elle est affichée sur son site officiel, allez le voir, michellemichina.com. L'album s'appelle Le Souffle, il sera disponible le 28 mars 2015, voilà, le rendez-vous est pris. La chanson, bah vous avez compris, hein, le nom de la chanson c'était Mon Amour. Juste avant, Urushi, le nouveau projet musical de Keisho Ono, je l'ai présenté très très rapidement, un petit peu trop rapidement. Keisho Ono, je rappelle, shamisenka, grand maître du Tsugaru Shamisen, c'est sa discipline à lui, et c'est son instrument à lui, très très particulier et plus gros que les shamisen habituels, et qui est largement francophile puisqu'il est venu plusieurs fois en tournée, notamment en France, mais pas que d'ailleurs, il a tourné à peu près partout dans le monde, mais c'est notamment en France qu'il a fait pas mal de scènes, et notamment dans la région au sens large du terme. Nous on est basé à Lyon, Muteki évidemment puisque c'est Radio Canu, et il a fait aussi pas mal de scènes notamment en Bourgogne ou dans les Alpes. Voilà pour le petit CV de Keisho Ono, qu'on salue au passage. On salue également Kuro, évidemment, l'un ne va pas sans l'autre, en tout cas lorsqu'il y a des tournées en France notamment. On va enchaîner justement sur le focus, la suite du grand format. Finalement, ça devient un grand format consacré à Ryuichi Sakamoto. Un petit peu involontaire, comme je le disais, emporté un peu par l'élan, je me suis dit tiens, pourquoi pas montrer d'autres aspects plutôt que d'en parler, autant montrer la musique de ce qui était son groupe à lui, c'est-à-dire le Yellow Magic Orchestra, groupe que bah, vous allez écouter, en tout cas groupe qui n'a rien à envier, en tout cas dont les Daft Punk se sont inspirés notamment, enfin pas que évidemment, mais une grosse partie de la scène électro de maintenant, en fait, finalement se retrouve à être les héritiers de ce son qui était avant-gardiste. J'ose pas dire que c'était les Kraftwerk japonais, parce que c'était beaucoup plus pop. Kraftwerk était beaucoup plus expérimental. Si vous connaissez pas Kraftwerk, c'était une formation, c'est toujours, d'ailleurs il existe toujours, une formation allemande. Yellow Magic Orchestra donc est tout aussi expérimental dans l'électronique, et mais avec un côté un peu plus pop, et c'est surtout un groupe qui s'est très bien exporté. C'était un des premiers groupes qui s'est exporté en dehors du Japon, voilà où je voulais en venir juste avant de lancer la chanson. C'était voilà un des premiers produits d'exportation musicale du Japon avant que ça devienne swag, et si vous voulez, ça correspond aussi avec toute la grande vague de l'électronique japonaise qui allait débarquer dans les années 80, et eux en offraient un visage assez sympa et ludique, il faut l'avouer. On était en 1979 et la chanson c'est Behind the Mask, et juste après ben on aura une deuxième fois Behind the Mask mais interprété par quelqu'un d'autre, une reprise donc du Yellow Magic Orchestra, mais d'abord évidemment l'original 1979. Ouais, on passe du Michael Jackson sur Muteki. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et oui, surtout quand il reprend du japonais. Michael Jackson qui reprend le Behind the Mask du Yellow Magic Orchestra. Pas tout à fait non plus. Alors, pour préciser, c'est tiré de l'album posthume Michael, le premier qui est sorti après le décès de Bambi. Album de 9 titres donc qui est sorti, je l'ai dit, de manière posthume, dans laquelle on trouve donc pas mal de raretés, de b-side, de chansons inachevées, puisque faut savoir que Bambi, quand il enregistrait un album, il faisait donc 10 à 12 chansons. C'était à peu près la taille d'un album des années 80-90, sauf qu'il en enregistrait 40 à peu près. Donc il y avait il reste toujours d'ailleurs un fond musical assez phénoménal, prêt à être exploité, évidemment dans le respect, en tout cas on l'espère, mais bon après on peut toujours on peut toujours un petit peu en douter. Preuve d'ailleurs avec cet album qui s'est fait descendre par la critique, pas tout à fait descendre, mais enfin quasiment descendre par la critique, et que je trouve à titre personnel assez radin. On n'y trouve pas grand-chose au final, à peine 9 petites chansons avec des arrangements en plus qui sont assez cheap, je trouve. Et vous l'avez sans doute constaté avec cette reprise justement de Behind the Mask, avec un faux live, avec la voix de fin d'ailleurs qui n'est pas celle de Michael, qui a été rajoutée parce que la chanson, il me semble, est inachevée. Et puis, je disais que c'est pas tout à fait une reprise. Bah oui, parce que en réalité, c'est une reprise d'Eric Clapton. Si vous connaissez pas forcément le bonhomme, c'est un découvreur de talent. C'est l'homme qui, alors pour la légende évidemment, hein, j'en rajoute des tonnes. C'est l'homme qui a introduit le reggae dans le monde occidental, ce qui est pas tout à fait vrai. En réalité, la scène reggae existait déjà, sauf que c'est lui qui, en faisant un High Shot de Sheriff remixé en pop, qui était à la base donc une chanson de Bob Marley. on a fait finalement a fait du reggae une comment dire a introduit le reggae dans la pop musique occidentale a branché de l'époque. On était dans les années fin des années 70, quelque chose comme 77, quelque chose comme ça, 78. Donc à peine quelques années seulement avant le décès de Mr Bobby. Et Clapton a fait presque pareil finalement. Il a déniché ce son au Japon. Le Yellow Magic Orchestra se faisait connaître à ce moment-là, groupe j'allais dire émergent au niveau mondial. Et ben il en a fait une reprise. C'est lui qui a écrit, composé les couplets qui ont été rajoutés pour cette version anglophone de Behind the Mask. Et Michael Jackson s'est dit tiens pourquoi pas, puisqu'ils étaient copains avec Clapton, ils se sont dit tiens pourquoi pas moi. Et puis ça s'est jamais fait. C'était pendant les sessions d'enregistrement, et là c'est vraiment de mémoire, donc je vais peut-être me gourer, mais je crois que c'est pendant les sessions d'enregistrement de l'album Dangerous, pour être plus précis, et si ça se trouve je me gourre et vous allez me corriger, en tout cas j'espère. Donc focus juste à l'instant sur le Yellow Magic Orchestra, le groupe de Ryuichi Sakamoto, et la semaine prochaine, eh ben on parlera plus précisément de sa carrière de compositeur, parce que je parle du Dernier Empereur, je parle de Fulio. Ben on va en parler justement, et on va même plus qu'en parler, on en passera de la musique, et ce sera pour la semaine prochaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit focus. On va enchaîner sur eh bien ce qui va se passer durant l'année 2015, et là aussi j'en parle beaucoup, et puis on n'a jamais encore trouvé le temps de véritablement se pencher sur la question. J'avais dit que en 2015 j'allais commencer à parler de Dōjin Music, donc de musique amateur, musique fait par, en tout cas Dōjin a ce sens d'amateur, fait par des otaku, en tout cas fait par des par ce qu'on appellerait nous dans le monde occidental des geeks. Il n'y a pas ce terme là, otaku est beaucoup plus fort et plus socialement connoté, même si maintenant évidemment un peu comme le terme geek ça commence à devenir à la mode. Le terme de Dōjin Music donc regroupe des gens qui sont amateurs, mais pas forcément qui font de la musique tout à fait dans leur garage. D'une certaine manière, ce sont les gens qui aussi vendent leur production au Comiket, le grand salon qui draine dans les 600 000 personnes du côté de Odaiba à Tokyo, qui est à peu près l'équivalent de, oui, à peu près trois fois Japan Expo, pour vous donner une idée. Donc cette Dōjin Music, c'est un monde en soi. Ça va de la musique tirée de jeux vidéo, ça va de la musique absolument pas inspirée de jeux vidéo, mais qui utilise notamment des programmes de logiciels de synthèse vocale comme Vocaloid par exemple. Bref, c'est extrêmement varié. Donc on va faire un tour, on va essayer de rendre compte de la diversité de tout ça. On va commencer par une petite mise en bouche, parce que moi j'étais tombé sur une compile en fait qui regroupe pas mal d'artistes qui se sont vendus, notamment que vous avez pu trouver notamment à Japan Expo. Donc on va vous faire découvrir un petit peu tout ça, parce que nous on l'a acheté du coup rubis sur l'ongle, et on a aussi acheté quelques petits extras, et notamment des artistes comme ça qui gagnent à être connus et qui gagneraient à être connus et à gagner de l'argent. On commence avec Popness Sees the World, donc la popitude s'empare du monde, voilà comme on pourrait traduire ça. L'album est un EP qui, en tout cas c'est un album EP mini opéra rock d'une certaine manière, et voici un extrait donc de cette EP de Popness Sees the World. C'est de la Dōjin Music, c'est de la musique amateur, c'est japonais, c'est directement importé du Japon, et bien sûr c'est sur Muteki. Madness is the world. Alors la chanson n'est pas tout à fait finie, voilà, puisque ça se termine avec un petit peu de texte, une tirade. Et comme je vous le disais, cette EP est un mini opéra rock avec 4-5 chansons et 4-5 parties parlées. Voilà, avec une histoire au fil des pistes de ce CD dont j'essaierai de vous retrouver les références parce que il est certainement encore dispo au Japon. Popness is the world.net, c'est un peu compliqué à épeler, je vous donnerai ça, tout ça sur les pages Facebook et Twitter de Muteki, bien entendu. Premier épisode donc de notre petit passage en revue qui s'étendra sur toute l'année, comme ça, sporadiquement, quasiment toutes les... On va essayer de faire ça toutes les semaines, ceci étant, hein, voilà. Donc, sur la Dojin Music, la musique réalisée de manière amateur au Japon. Vous avez compris que amateur veut pas forcément dire cliché dans son garage, ça veut dire aussi des choses de niveau quasi pro en tout cas. On va continuer et on va faire surtout un petit clin d'œil à, alors c'est pas un petit clin d'œil tout à fait à l'ère du jeu, l'émission également sur Radio Canu qui traite de jeux vidéo. Bonjour Naz, bonjour toute l'équipe. On va passer un petit peu de musique de jeux vidéo, pas non plus sans rapport avec l'actualité, puisque pendant 2 jours encore, vous pouvez encore regarder sur le site de France 4 un documentaire extrêmement bien foutu sur ce qu'on appelle la chiptune, tous les sons électro regroupés sous le terme chiptune, c'est-à-dire cette partie de la scène électro, pas que électro d'ailleurs, puisqu'on peut s'en servir pour à peu près n'importe quoi, mais qui se base sur des synthés qui sont eux-mêmes basés sur des puces sonores de vieux ordinateurs ou de vieilles consoles de jeux. Voilà pour l'explication comme ça en 2 petits mots, mais en tout cas ça donne des groupes qu'on a déjà passés à l'antenne. YMCK pour les japonais, Consumers aussi pour les japonais, Sida Beatball ou Ultracid pour les français. Je peux citer aussi l'Amiseb, Cartoon Magician qui en met aussi dans ses musiques. Et donc voilà, il y a toute une scène qui s'est montée de par le monde. Et puis vous avez aussi notamment la BO de Scott Pilgrim versus The World si vous voulez un petit peu une sorte de fusion finalement rock et chiptune. Donc voilà, il n'y a pas uniquement que l'électro. Là, c'est plus pour les besoins d'un film qui effectivement flatte notre nostalgie de trentenaire, mais voilà, ça peut être servi à peu près à toutes les sauces, si j'ose dire, la chiptune. Donc excellent documentaire à voir en anglais, traduit en français, doublé en français sur le site de la chaîne France 4, et je crois que c'est véritablement jusqu'à la fin de la semaine, donc vous avez encore jusqu'à peu près, je crois, lundi pour le visionner. N'hésitez pas, le lien est bien sûr sur la page Facebook de Muteki. Alors on va passer de la musique de jeux vidéo. Et on va commencer avec du bon vieux Castlevania. Ça, c'est pour l'ère du jeu. Voilà, ça va leur plaire. Avec Wicked Child, tiré du tout premier Castlevania. Wicked Child, c'est quel monde du coup? C'est un monde extérieur, celui où on va se... Enfin, en fait, le monde, je crois que c'est le troisième monde qui permet d'accéder ensuite à ce qu'on croit être la marche vers le palais du comte Dracula. Et en fait, on tombe d'une falaise. Voilà, et on se retrouve dans les égouts à devoir remonter jusqu'à la chambre du comte Dracula. Là, oui, petit twist dans l'histoire. Si vous avez jamais joué à ce jeu Castlevania, essayez-le. Il est dur, il est très très dur, surtout pour des mains des années 2010. Non, je fais mon vieux, effectivement. Non, essayez-le, c'est un véritable monde en soi, peuplé de démons. À la base, qui était un peu parodique, le premier Castlevania est un petit peu parodique. Les autres seront beaucoup plus sérieux et structurés avec tout ce décorum autour du comte Dracula. Le premier, donc, sur NES, paru en 1986. autre pilier de cette série Castlevania, c'est évidemment Symphony of the Night, épisode sorti en 1997 sur PlayStation, sur Saturn également, si je me souviens bien, qui est un des meilleurs jeu de plateforme qui existe, en tout cas l'un des plus aboutis de l'histoire, en tout cas dans les jeux de plateforme 2D. C'est un de ceux que j'arriverai jamais à finir parce qu'il est véritablement beaucoup trop labyrinthique, mais en même temps complètement passionnant et très très beau avec ce décorum. Voilà, comme je le disais, j'en parlais de ce décorum très 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 à base de froufrou, à la limite entre le vampiresque de roman, un petit peu également peut-être un petit peu de, j'allais presque dire de steampunk, parce que c'est, on est entre le 18e et le 19e avec évidemment ces clavecins là, donc on est véritablement au cœur du cliché qu'on a de tout l'univers vampiresque. Alors je parlais du tout premier épisode qui était juste avant, on avait Wicked Child qui est le troisième monde, et je disais que le premier épisode était un peu parodique, oui, parce que quand le jeu se termine, alors il y a eu toute une histoire qui a été montée ensuite. Elle a été montée après le premier épisode avec Simon Belmont, avec toute la famille Belmont qui est en train de pourchasser Dracula à chaque fois qu'il essaie de se réincarner. Donc quasiment à chaque jeu, vous avez un nouveau Belmont, une nouvelle génération qui prend la relève de l'ancienne, jusqu'à quelques twists qu'on a eu ces dernières années, notamment dans l'histoire avec les épisodes en 3D qui ont redéfini notamment les codes de certains codes de l'histoire. Mais le tout premier épisode, eh ben Simon Belmont, c'est en fait à la base une parodie de Jean-Paul Belmondo. Parce que quand le jeu se termine, en fait, les programmeurs sont cités, mais avec des noms parodiques, et Simon Belmont s'appelle Simon Belmondo. Essayez de finir le jeu, vous allez être surpris de voir que finalement, ça a été véritablement construit comme une sorte de film 8 bits de l'époque, évidemment, de 1986, avec les moyens de la Famicom, qui étaient des moyens d'une console de deuxième génération. Mais voilà, ça a été construit comme si l'on prenait part véritablement à un film, et c'était d'ailleurs le grand motto de l'époque, c'était le grand slogan de l'époque, c'était ces fameux films dont vous êtes le héros, vas-y, prenez une manette de jeu vidéo, vous allez participer à une aventure cinématographique. C'était un petit peu ça qui était vendu dans les années 80, et ça se prête bien justement au vocabulaire et au marketing de l'époque. Puisqu'on parle de films, eh bien une actualité que je vous invite à suivre de très près, notamment sur un grand écran dans une salle de cinéma, c'est le tout dernier film des studios Ghibli qui s'appelle Souvenir de Marnie, en japonais Omoide no Marnie, et qui sera le dernier avant que le studio ne ferme pas, mais se consacre à d'autres projets, notamment ne serait-ce qu'à faire vivre déjà les licences qui existent, mais également à d'autres projets autres que des longs métrages en salle obscure. J'ai déjà passé cette très jolie chanson, et puis je vous la repasse parce que là pour le coup elle est complètement dans l'actualité, et la chanteuse c'est Priscilla Anne pour les références si vous les cherchez, et la chanson elle est interprétée en anglais, Fine on the Outside. On se quitte avec cette très jolie chanson, portez-vous bien, vive le son japonais, matane. Right.
sometimes.